en exergue, j'ai mis ces citations. Une banderole vue lors d'une manifestation d'éleveurs anti-loups à Annecy en 2005. Les loups ne sont pour rien, il faut tirer ceux qui les lâchent et les protègent. Et le commentaire de la même manifestation le lendemain dans le Dauphiné Libéré, la manifestation a été bon enfant. Le thème que je vais traiter dans c'est le suivant, l'agrocentrisme est-il un humanisme ? Je vais essayer de vous montrer que règne aujourd'hui une nouvelle rhétorique anti-environnementale qui présente comme humaniste les gens qui s'opposent aux revendications environnementales et qu'il faut passer de cette nouvelle rhétorique anti-environnementale à l'expression renouvelée du désir de nature. Du point de vue du cycle de conférences RES, je vous rappelle les séances précédentes. La première avait indiqué que les recherches françaises étaient dans un état de confusion en matière d'environnement parce qu'elles ne prenaient pas conscience des ancrages normatifs sur lesquels elles étaient fondées. Et donc, cette conférence comportait une analyse du problème et un appel à refonder un nouvel espace critique pour discuter des recherches et des discours des acteurs. Cette démarche avait été lancée dans une deuxième conférence. Et puis, la séance suivante à Montpellier avait porté sur l'évaluation des politiques publiques en montrant que l'analyse stratégique de la gestion environnementale pouvait recadrer la question de l'évaluation des politiques publiques. Là, on est proche des thèmes du module. Et puis, reste 3, en fait, il y a une erreur. Essayer de montrer que toute intervention de sciences sociales ou toute intervention analytique dans des champs controversés relevait aussi de l'intervention clinique. Et là aussi, j'ai proposé une analyse là-dessus. Donc aujourd'hui, mes objectifs sont les suivants. Le premier, c'est de montrer que la rhétorique est une dimension majeure du questionnement de la société par la problématique environnementale. Autrement dit, de montrer que pour comprendre les débats environnementaux, c'est important de les aborder aussi sous un angle rhétorique en se donnant les compétences de la dimension rhétorique. Deuxièmement, mon objectif, c'est d'intervenir face à une pression discursive qui règne dans nos milieux académiques et professionnels et qui tend à priver de sens la préoccupation environnementale, en la référant obligatoirement à toujours autre chose. Et sur un plan plus théorique, cette approche de la rhétorique va constituer un pas de plus dans la discussion entre des approches théoriques stratégiques, comme la SGE, et des approches théoriques de l'empire du sens, qui ne se fondent pas sur l'aspect stratégique. Donc la question du sens et de la stratégie s'articule dans la rhétorique, et c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Le plan de l'exposé, le plan sera en deux parties. Première partie, je vais essayer de démonter cette rhétorique de l'humanisme, entre guillemets, anti-environnemental. Et puis, dans une deuxième partie, une fois que cette rhétorique est récusée, réfléchir aux orientations d'action et de recherche qu'on peut prendre une fois que ce travail-là est fait. La première partie, elle va passer par 5 étapes. D'abord, un préambule sur la rhétorique. Ensuite, un rappel sur la critique du discours agricole que j'avais proposé dans mon ouvrage de 92. Ensuite, on va venir sur la rhétorique de l'humanisme anti-environnemental. On va approfondir avec le problème du loup. Et au final, on va découvrir le noyau dur de l'humanisme anti-environnemental qu'on va pouvoir, d'une certaine façon, extirper. La rhétorique, qu'est-ce que c'est ? Dans l'encyclopédie philosophique, Reboul nous explique que c'est l'art du discours. Et en tant qu'art du discours, la rhétorique s'inscrit à 3 niveaux tout à fait différents. D'abord, elle est un savoir spontané, c'est-à-dire le savoir de toute personne qui parle et qui sait parler pour convaincre. Donc, toute personne qui parle fait de la rhétorique. Deuxièmement, la rhétorique, c'est une technique, c'est-à-dire que c'est l'apprivoisement et l'explicitation de cet art de parler pour convaincre. Apprendre la rhétorique, c'est apprendre des figures de rhétorique pour les mettre en œuvre dans une pratique, comme un maçon qui apprend à maçonner. Que ce soit pour des questions utilitaires ou pour des questions esthétiques. Et puis, la rhétorique, c'est aussi la critique du discours qui essaye de convaincre, et donc c'est la réflexion critique et systématique sur les discours qui essayent de convaincre. Du coup, ce concept est d'emblée complètement transversal par rapport aux stratifications habituelles de nos discussions académiques entre le profane et le savant. Le profane parle pour convaincre, le savant parle pour convaincre. Entre savoir et agir, puisque quand je parle pour convaincre, j'agis, et très souvent quand j'agis, je parle. Ça éclate aussi la stratification entre subjectivité et objectivité. Donc la rhétorique, au fond, est un opérateur complètement transversal par rapport à ces stratifications habituelles. L'un des thèmes de base de la littérature sur la rhétorique, c'est que la rhétorique peut viser deux types de projets. Le premier projet, c'est trouver le vrai. On parle et on argumente en espérant que la construction de la parole et de l'argumentation nous rapproche de la vérité, nous aide à identifier collectivement la vérité. L'autre conception de la rhétorique, ou l'autre aspect de la rhétorique, c'est l'art de convaincre en agissant sur les esprits. L'enjeu n'est peut-être pas du tout de trouver le vrai, mais que l'autre s'aligne sur notre manière à nous de poser ou de vouloir traiter le problème. Donc la rhétorique, elle est marquée dès le départ, et la littérature sur la rhétorique est claire là-dessus, entre ces deux pôles. Tout à fait fondamental pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire l'analyse des situations de gestion de l'environnement, le concept de rhétorique nous tient à l'intérieur des situations d'argumentation. Pour reprendre un des leitmotifs et des mots-clés de Hess, nous sommes dedans. Nous sommes dedans puisque la rhétorique, c'est à la fois notre savoir-faire avec lequel nous discutons, c'est notre tentative pour l'élaborer par des techniques de structuration de nos discours, et c'est aussi la réflexion sur cette tentative de structurer notre discours. Et donc, la rhétorique, parler en termes de rhétorique de ces discussions d'interprétation des problèmes écologiques, c'est accepter d'être soi-même à l'intérieur de la situation d'argumentation. Personne ne peut la voir de l'extérieur en croyant qu'il est au-dessus de la situation d'argumentation. Et donc, nous sommes au cœur de la problématique RES et des problèmes de l'immanence dont on a parlé à la dernière séance. Alors, sur le domaine de la rhétorique, un peu comme dans d'autres champs, aborder la rhétorique, c'est déjà commencer à se faire une culture sur la rhétorique pour essayer de comprendre les auteurs qui ont parlé de la rhétorique. Quelques balises bibliographiques. Un beau texte de Nelson des années 1900 dans un livre qui s'appelle « Certitude de la raison ». Il y a là-dedans un texte sur la méthode socratique qui est intéressant pour voir la rhétorique et la discussion argumentée comme moyen pour aboutir à la vérité des concepts. Et puis, dans les années 50, je crois, le livre fondamental de Perelman et Olbrecht-Titeka, qui s'appelle « Traité de l'argumentation », sous-titre « La nouvelle rhétorique ». Et c'est cette formule de nouvelle rhétorique que j'ai pris dans mon titre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Que nous montrent Perelman et Olbrecht-Titeka ? Que dans un débat scientifique qui est public dans les années 50, qui est complètement dominé par l'idée d'une rationalité unique, en fait, la dimension de l'art de convaincre est irréductible. Et l'espoir qui était avancé à cette époque de pouvoir ramener toute la raison humaine à des langages formalisés est un espoir sans fondement. Donc ce livre est absolument magnifique puisqu'il reprend les anciens concepts de la rhétorique qui se développent depuis 3000 ans, et il les tient face au discours de la théorie des jeux, des gens qui pensaient à l'époque pouvoir mener à bien un programme de formalisation totale de la raison humaine et abandonner finalement l'idée de l'argumentation et de la parole pour convaincre. dans le même registre. Alors, dans des textes un peu plus récents, il y a un très beau texte de Barthes. Barthes a fait un séminaire pendant toute une année à l'école des hautes études en sciences sociales, où il a repassé en revue tous les écrits sur la rhétorique depuis Aristote jusqu'aux formations à la rhétorique qui dominaient encore l'enseignement secondaire jusqu'au XIXe siècle, et donc qui permet d'avoir un panorama de ce que c'était que cette ancienne rhétorique. Recommander aussi le livre de Dupriez sur les procédés littéraires, qui est un véritable dictionnaire des figures de rhétorique, très utile pour le décryptage des prises de parole et des textes. Autre recommandation de lecture, Dispo, 1984, La logique et le quotidien. C'est un livre sur la logique de l'argumentation. Pourquoi c'est fondamental? Tout simplement parce que c'est les écrits qui se présentent comme académiques ou les rapports administratifs qui présentent des actions sont des argumentations. Et le fait de pouvoir soulever leur capot et analyser la logique de ces argumentations, de se donner les moyens conceptuels de comprendre cette logique, est très important. Donc pour moi, Dispo est un ouvrage fondamental. Dans la même, dans un autre registre, il y a un livre magnifique de Hirschman qui s'appelle « Deux siècles de rhétorique réactionnaire », qui montre quelles sont les figures de rhétorique qu'on utilise pour s'opposer aux acteurs qui demandent des changements. Et, par exemple, on retrouve tout à fait les figures décrites par Hirschman dans les discours des groupes de pression agricole pour refuser d'entendre certaines revendications environnementales. Ça, c'est la littérature sur la rhétorique. Mais depuis la fin des années 70, il s'est produit une véritable explosion conceptuelle et intellectuelle autour du mouvement postmoderne et de la French Theory. Tous les auteurs comme du mouvement postmoderne, par exemple Lyotard, en viennent à penser qu'il n'y a rien d'autre que de la théorique. Que de la rhétorique. C'est-à-dire que la seule chose que nous savons, c'est du texte. Quand nous discutons avec d'autres gens, quand nous essayons de les comprendre, de toute façon, ce que nous avons devant nous, c'est du texte. Et donc, ce n'est pas la peine de parler de réalité, mais simplement d'intertextualité. De la même façon, petit à petit, on se rend compte que le problème de la rhétorique ne s'arrête pas au discours verbal, aux belles paroles, mais qu'on peut parler d'une rhétorique généralisée. Et si vous avez lu La science en action de Latour, eh bien, il vous montre que finalement, les modèles de changement climatique ne sont pas moins rhétoriques que des discours fleuris. Ils ont des articulations, des arguments qui sont là pour convaincre, ni plus ni moins, que dans un discours. Un autre mouvement contemporain de pensée qui explose aujourd'hui et qui ramène la rhétorique au centre du paysage, c'est le performatif, c'est-à-dire, depuis que le linguiste Austin a dit dans les années 50, je crois, qu'en parler, c'est agir, on s'aperçoit que la parole peut être une action, et petit à petit, cette dimension performative de la parole a pris un poids toujours plus grand dans l'action publique notamment. Et quand on réfléchit aujourd'hui à ce qui constitue les politiques sociales, les politiques urbaines, les politiques environnementales, toute une partie de ces politiques repose sur l'hypothèse qu'en faisant un plan de développement durable, un plan de réussite éducative, un plan de mixité sociale dans l'urbanisme, eh bien ce plan, c'est ça l'essentiel de l'action publique. Autrement dit, c'est le discours qui constitue l'action. Donc, analyser une situation de gestion environnementale, c'est interpréter des discours. Nous n'avons accès essentiellement qu'à des discours, par les entretiens, par les documents, par les rapports. C'est aussi produire du discours, puisque nos présentations, nos exposés sont des discours. Et puis, c'est se confronter, parfois s'affronter, aux discours d'autres analystes qui eux-mêmes produisent d'autres interprétations. Et lorsque nous essayons de dépasser cet aspect-là, du travail, nous commençons à discourir sur nos interprétations des discours. Donc nous sommes bien dans cette situation où nous ne pouvons pas nous mettre en extériorité complète par rapport à cette position des discours les uns sur les autres. Évidemment, on est renvoyé à ce que j'avais présenté dans la première conférence RES sur les postures de soulagement et parmi elles, la tentation de ceux des chercheurs qui voudraient trouver une posture d'analyse qui leur permette à eux d'échapper à l'entrelacement et au déséquilibre permanent du discours sur le discours. Cette tentation, à mon sens, est sans objet et je pense que c'est un des points clés de la réflexion. Une autre solution, c'est celle que j'ai plaidée dans la dernière séance, elle consiste à adopter une posture analytique, à assumer le fait que nous sommes chacun intervenant dans une situation et que notre parole vaut et que notre recherche vaut ce que vaut l'interprétation d'un intervenant dans une situation. Alors, j'avais fait une première approche de ces problèmes de rhétorique dans mon livre de 92 en analysant la rhétorique présente dans un rapport officiel qui s'appelle le schéma d'aménagement des marais de l'Ouest. Ce schéma, c'était ni plus ni moins qu'un rapport officiel pour proposer des travaux hydrauliques, mais les propositions concrètes, techniques et financières étaient nappées dans un fond de sauce rhétorique qui me paraissait tout à fait intéressant d'analyser. Je l'ai abordé sous deux angles, ce fond de sauce rhétorique. D'une part, chercher quelles étaient les articulations et les structures du discours et en quoi elles constituaient une stratégie pour nous convaincre, évidemment pour nous, en essayant de voir pour de quoi on essayait de nous convaincre, et puis en essayant d'identifier quels étaient les petits procédés rhétoriques par lesquels les ingénieurs qui avaient écrit le rapport essayaient de nous influencer sur un plan affectif, je dirais. Voilà en gros le raisonnement de base du rapport. Pour garder la richesse écologique des marais humides, il faut les entretenir. Pour les entretenir, il faut des agriculteurs. Pour que les agriculteurs restent, il faut un revenu suffisant. Or, le marché est tel qu'à système de production égal, le revenu baisse. Pour maintenir le revenu, il faut intensifier la production. Pour intensifier la production, il faut passer à la culture, drainer et labourer. En d'autres termes, pour conserver les prairies humides, il faut les drainer et les labourer. Donc, la mise en évidence de ce raisonnement, évidemment, elle n'est pas directement présente à la première page du rapport. Pour voir que le raisonnement qui construit le rapport est celui-là, il faut se livrer à une analyse précise de l'enchaînement des arguments, de la manière dont ils conduisent les uns vers les autres, et ça, c'est le début du travail rhétorique. Ce paradoxe-là, je m'aperçois aujourd'hui, 15 ans après, que pour l'éviter, il est absolument nécessaire et il est suffisant de poser que biodiversité et développement agricole sont des problématiques irréductibles l'une à l'autre. Si on ne pose pas que ce sont des problématiques irréductibles l'une à l'autre, si on postule qu'à un moment donné, la problématique de biodiversité peut se ramener à une problématique agricole et rester telle, alors ce paradoxe trouve un espace à la fois concret et conceptuel de déploiement qu'on ne peut plus arrêter. Donc, cette petite analyse nous emmène au cœur des enjeux théoriques et pratiques actuels de l'interface environnement et biodiversité. Le deuxième volet de cet exercice, comme je vous l'ai dit, ça avait été de lire en essayant d'entendre les petits procédés rhétoriques par lesquels on essayait de m'influencer. Et le plus évident, c'est l'accumulation de qualifications disqualifiantes. C'est-à-dire qu'on va mettre des adjectifs ou des manières de parler de certains des humains ou des non-humains qui sont dans le dossier, qui les disqualifient, et puis d'autres, au contraire, on va leur accoler des petites fioritures qui les qualifient et qui les légitiment. Sur ce rapport qui fait une centaine de pages, voilà le passage qui concerne les exploitants qui font de l'élevage. Ceux restés en dehors du progrès le sont soit pour des raisons hydrauliques, soit parce qu'ils sont principalement utilisés par des éleveurs éloignés ou ne possédant de prairies qu'en marais. Dans ces secteurs, les exploitants n'ont de ce fait que peu d'intérêt actuellement à ce que la situation existante soit changée. Dans tout le rapport, ces 8 lignes sont les seules consacrées aux éleveurs qui exploitent une partie du territoire du Marais Poitevin, 8 lignes pour la moitié des surfaces, 40 000 hectares, et la moitié des exploitations, plusieurs milliers d'exploitants, sont disqualifiés et évacués en 8 lignes, avec, d'autre part, des petits mots, par exemple celui d'intérêt, qui tend à induire l'idée que ceux qui veulent mettre du maïs en drainant, en irriguant, sont poussés par une logique de bien public. Au contraire, ceux qui voudraient continuer à faire de l'agriculture extensive, ça ne peut s'expliquer que par leurs petits intérêts. On les présente également comme éloignés. C'est quand même un des rares exemples où on arrive, pour disqualifier, y compris des agriculteurs, à expliquer qu'ils ne sont pas locaux. Donc, dans le livre, vous trouverez, là je pense que ce serait un peu long de les lire, l'introduction du schéma qui nous présente une sorte de dégagement poétique pour nous camper le décor. Et on s'aperçoit que cette manière-là de camper le décor distribue les rôles, les beaux rôles et les mauvais rôles. Dans l'introduction du rapport tel qu'elle est rédigée, on nous explique que depuis le XIIIe siècle, il a fallu des interventions répétées du roi, des monastères, etc., pour permettre la prospérité et l'aménagement du marais Poitevin. Sous-entendu, aujourd'hui, ce sont les ingénieurs du greffe chargés de l'aménagement du marais Poitevin qui constituent la dernière barrière contre le chaos social et environnemental. Il est clair que ces poèmes que l'on trouve dans n'importe quel rapport administratif ou technique ou proposition d'aménagement méritent notre attention parce qu'ils nous permettent de voir qui essaye de nous convaincre de quoi et par quel procédé. Donc, première série de conclusions, c'est la pertinence des approches rhétoriques, y compris un rapport technico-administratif pour une demande de financement est un objet rhétorique extrêmement vivant, bouillonnant, et le fait de l'aborder sous cet angle-là permet vraiment d'éclairer les situations d'interaction pour la gestion des espaces et pour la gestion des territoires. Mais pour qu'on puisse être éclairé par cette dimension rhétorique, ça demande un véritable travail critique. Ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux, ça demande un travail d'interprétation sur les articulations des discours, les grandes constructions du discours, ce qui n'est pas très facile parce que souvent elles sont plutôt cachées à l'intérieur du discours, et puis sur les cadrages, les connotations et les connexions. Un exemple de cadrage, c'est le fait que ce rapport qui porte sur l'aménagement du marais Poitevin, qui a plusieurs reprises programme qu'il faut concilier environnement et développement agricole, ne mentionne à aucun moment le parc naturel régional du marais Poitevin qui couvre l'ensemble de la zone et dont la mission est de concilier agriculture et environnement. Donc ça aussi, ça fait partie de la lecture rhétorique, c'est de se mettre en situation d'identifier ce dont les textes ou les gens ne parlent pas, alors même que parfois c'est énorme. Donc, ça vaut la peine de développer une compétence critique pour aborder la dimension rhétorique des textes. Mais, et j'y reviendrai à plusieurs fois, je voudrais insister sur le fait suivant. Autant c'est important d'apprendre à repérer dans les discours, dans les textes, dans les rapports, dans les articles scientifiques, les procédés rhétoriques qui sont mis en œuvre, les logiques rhétoriques qui sont mises en action, autant il n'est pas acceptable de réduire un texte à une dimension rhétorique, c'est-à-dire de traiter un texte comme s'il n'était que rhétorique. Alors maintenant, venons-en à ce discours humaniste face à l'environnementalisme. Donc depuis que je suis dans ce domaine-là, c'est-à-dire en gros depuis que j'ai 14 ans, j'ai entendu successivement les discours indignés suivants. Tu ne vas quand même pas faire passer des oiseaux avant les petits Biafrais. Donc quand j'étais au collège, c'était à l'époque de la guerre du Biafra, qui était liée à des conflits pétroliers et autonomistes au Nigeria. Et les enfants des écoles étaient sollicités pour donner pour les Biafrais qui étaient affamés dans le cadre de ce conflit. D'autres étaient dans des associations naturalistes. Et il y avait déjà une certaine forme de violence rhétorique en disant « mais c'est dégueulasse de t'intéresser à l'association naturaliste, alors que ce serait beaucoup plus intéressant de te laisser convoquer dans la filière développementiste qui, à l'époque, était centrée sur le Biafra. » 20 ans après, chaque fois dans les années 90, J'ai participé à des dizaines, des centaines de réunions de chercheurs sur le développement durable, l'environnement, etc. À chaque début de réunion, pendant que chacun cherchait sa place, que s'asseyait pour démarrer la réunion, la formule rituelle, c'était « on est là pour parler d'environnement ». Oui, mais l'environnement pour l'homme, hein, donc, d'accord, on ne sait pas si l'environnement pour l'homme, hein, c'est pas les petites fleurs et les petits oiseaux. Ça paraît anodin, ce cadrage paraît anodin, mais en réalité, il est fondamental. Parce qu'à partir de là, il n'est plus possible de discuter sérieusement et de manière paritaire sur les questions environnementales. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Quant au dossier des ours et des loups, qui est un très bon cas d'école, la question, c'est comment peut-on faire passer des ours avant des hommes? Exemple tiré du journal d'un journal dans les Pyrénées. Il y a eu une panne électrique dans la vallée d'Aspe. Donc, les EDF avaient mis quelque chose comme 15 heures ou 20 heures avant d'arriver à réparer la panne électrique. Commentaire des consommateurs EDF de la vallée d'Aspe, si ça avait été des ours, ils auraient été dépannés plus vite. Ce discours humaniste, entre guillemets, est un véritable fil de clôture rhétorique qui est répandu à tous les niveaux d'élaboration discursive. C'est-à-dire que ça va depuis l'habitant de la vallée d'Aspe qui dit « si ça avait été des ours, ils auraient été dépannés plus vite », jusque au livre de Luc Ferry sur le rejet de la DIP écologique et aux écrits de la DIP écologie et sur les écrits théoriques en matière de gestion de l'environnement. Il manque pas de texte, par exemple un texte qui s'appelle « Espace 2050 ». Pour assimiler la revendication environnementale à la DIP écologie, la DIP écologie a un anti-humanisme et donc la cause environnementale a une posture inacceptable. Parfois, ce discours se présente dans des termes brutaux, mais très souvent, il est noyé dans des formules de disqualification qui présentent de fait certains protagonistes comme humains et les autres comme pas humains. Par exemple, on a d'un côté des populations locales qu'on nous montre dans leur vie quotidienne, dans des problèmes de survie, et puis de l'autre côté, des technocrates, des lois, etc. Ce problème est évidemment un problème stratégique et rhétorique majeur pour le secteur environnemental depuis au moins 25 ans. De quelles options disposent les intervenants du secteur environnemental dès lors que, dès le début, ils sont confrontés à cette pression rhétorique qui les soupçonne de ne pas travailler pour l'homme, entre guillemets? Ils ont trois possibilités. La première, c'est de s'adapter, c'est-à-dire faire leur ce discours. Dire, OK, l'environnement, c'est pour l'homme. Et d'ailleurs, je vais vous montrer en quoi mes propositions sur l'écologie, sur la biodiversité, etc., sont bien des propositions pour l'homme. Et donc, rentrer dans cette logique. La deuxième réponse, c'est celle de la neutralisation de l'argument humaniste, c'est celle que j'ai développée dans mon texte de 1998, c'est-à-dire de dire, au fond, qu'importe les finalités qu'on suppose à l'action, il n'y a pas besoin de faire de métaphysique et d'expliquer quelles sont les finalités de l'action. À partir du moment où on pose des objectifs environnementaux, par exemple avoir de l'eau propre, potable, dans une nappe phréatique, c'est métaphysique et pas utile dans un débat de politique publique de savoir quelle est la finalité ultime. On est d'accord sur un objectif opérationnel et donc à partir de là, on doit pouvoir critiquer les positions des différents acteurs au nom de ce principe opérationnel. C'est la posture essentielle de tout le travail de la SGE, que ce soit par exemple dans le travail de Maya ou de Raphaël. Mais il y a une troisième possibilité qui est d'attaquer cette rhétorique humaniste pour la rendre inefficace. Le problème, c'est que cette rhétorique est une rhétorique, et donc elle est close. Comme Reboul l'explique très bien dans l'article de l'Encyclopédie philosophique, le discours rhétorique est forcément circulaire, il est clos, et on ne peut pas le critiquer dans le cadre d'une argumentation ouverte. On ne peut que y répondre par une autre rhétorique qui a pour objectif de mettre en échec la rhétorique. On est donc devant un problème de dévoilement parce que cette rhétorique entre guillemets humaniste est un projet qui n'est pas ouvert à la discussion, mais qui au contraire a pour objectif de fermer la discussion. Face à ça, il faut monter un assaut rhétorique, et c'est ça le problème. On est devant un problème de dévoilement, je pense que, en fait, ce n'est pas vraiment un dévoilement, mais c'est plutôt un problème d'éclateur idéologique. Là, je renvoie au texte sur l'analyse institutionnelle de Lourau. Comment faire pour que ce discours ne puisse plus fonctionner? C'est ça la question. Alors, pour donc dans les deux derniers morceaux de de cette première partie, je vais faire ce travail qui consiste à clouer la pièce d'artillerie que constitue cette rhétorique humaniste. Alors, un cas d'école, le loup est-il un loup pour l'homme? On va prendre une phrase qui est la suivante. Des règlements de Bruxelles imposent aux populations locales et financent lourdement la multiplication de loups qui détruisent l'élevage dont elles dépendent, les populations. Comment peut-on préférer le loup à l'homme? Alors, il est clair que ça s'ancre dans le dossier du loup, qui est un des dossiers phares en ce moment des débats de protection de la nature en France. Mais on pourrait évidemment transposer à d'autres espèces sur d'autres continents qui posent des problèmes similaires. Alors, on va essayer de déconstruire cette rhétorique du loup contre l'homme. Je vous propose de la replacer dans un premier temps, dans un cadre. C'est toujours la même phrase. Des règlements de Bruxelles imposent aux populations locales les loups qui coûtent cher aux contribuables et qui détruisent l'élevage en montagne. Face à ce discours, on peut en rencontrer un autre qui est de dire que c'est le lobby agricole qui se mobilise contre le loup. Ce discours-là sera plus facilement tenu par une ONG environnementale, par exemple, qui va dire « des hommes, femmes et enfants » attachés à la faune et aux écosystèmes, se heurtent à des lobbies agricoles subventionnés, soutenus par l'administration, et qui détruisent les loups pour sauver des moutons. L'enfer, c'est les autres. Ces deux discours, ils sont d'une certaine manière opposés terme à terme, et cette controverse, on peut la cartographier de cette manière-là. Les autres, c'est aussi la négociation. En fait, chacune de ces phrases peut être résumée de la manière suivante. Des personnes, soutenues juridiquement et financièrement, agissent et interagissent pour des attachements qui passent par des animaux. Cette symétrie, qui est évidente une fois qu'on a réussi à la rétablir, est déniée. Et c'est la dénégation de cette symétrie qui est le premier geste de force de la rhétorique soi-disant humaniste qui désamorce les prises de position environnementales. Cette dissymétrie, il y a toutes sortes de procédés qui sont utilisés pour l'imposer. Par exemple, dans cette autre formule, des écologistes urbains, ignorants de la réalité rurale, pris d'un amour aveugle pour le loup, sont prêts à tirer un trait sur la vie des éleveurs et de leurs familles. Regardez notre misère et nos patrimoines détruits. Comment peut-on préférer le loup à l'homme? Donc, les procédés sont nombreux, complexes, et puis on les trouve aussi dans des textes extraordinairement savants. On peut aussi expliquer avec des mots à 5 syllabes que les écologistes sont urbains, ignorants de la réalité. On peut insister sur les savoirs locaux dans cette optique. Tous les travaux qui existent sur la rhétorique et l'argumentation offrent des ressources extraordinaires pour décoder de telles tentatives. Par exemple, la notion de codage, avec des très beaux textes de Barthes, notamment S sur Z, qui la rendent très accessible. D'un côté, on va dire, c'est la loi qui impose de protéger les loups. Et puis de l'autre côté, on va dire, c'est des hommes, les bergers. Mais on pourrait aussi bien coder à l'inverse. D'un côté, il y a des personnes, des hommes, des femmes, qui veulent des paysages, la biodiversité, etc. De l'autre côté, il y a des règlements agricoles, une politique agricole. Donc ce codage, la dissymétrie dans ce codage, est le procédé principal qui fait que d'un côté, on montre les hommes et on cache l'argent, la loi, le profit, les animaux, le pouvoir. De l'autre côté, on ne montre que la loi, l'argent, le pouvoir et on cache les hommes. Un autre élément théorique, une ressource qui est capitale pour comprendre ces discours, c'est le concept de ponctuation qui est proposé par les chercheurs de l'école de Palo Alto et notamment présenté dans le livre de Vaclavic sur changement, paradoxe et psychothérapie. La ponctuation, c'est le concept qui désigne celui qui a commencé. Quand on a une querelle qui dure depuis un certain temps, pour décrire cette querelle, on va dire qui a commencé. La ponctuation, c'est le choix de dire qui a commencé. Dans les débats entre agriculture et environnement, ou forêt et environnement, ou pêche et environnement, le choix de qui a commencé dans l'exposé, cette ponctuation est déterminante parce que c'est elle qui construit une dissymétrie qui ensuite ne peut plus être rattrapée parce qu'elle est fondatrice de l'analyse elle-même. Donc il faut repérer ces ponctuations dans les discours. Et puis, évidemment, il y a tout un travail de polarisation qui est à la base de cette théorie. Par exemple, lorsqu'on va nous présenter la personne porteuse de revendications environnementales comme étrangère, riche, oisive et scientiste, alors qu'on va nous présenter l'agriculteur comme local, pauvre, travailleur et détenteur d'un savoir. Dans le dossier français sur l'ours, c'est assez extraordinaire parce qu'on nous présente d'un côté des éleveurs locaux, pauvres, travailleurs et qui ont des savoirs locaux, et puis des écolos qui sont censés venir de la ville. Mais on fait l'impasse complètement sur le fait que ces éleveurs sont pris dans une filière économique d'élevage, administrée, menée par des ingénieurs et des techniciens, avec des circuits financiers, des circuits de subventions, et dont les textes juridiques sont d'une force extrême par rapport à d'autres types de revendications sociales. Donc, ce travail de polarisation qui crée la dissymétrie doit retrouver aussi en face un travail de dépolarisation pour la défaire et réouvrir le débat. Deuxième acte de force de la rhétorique humaniste, d'un côté, elle nous impose des dissymétries, mais de l'autre côté, elle nous impose des symétries. C'est-à-dire qu'elle va nous imposer d'utiliser, quand ça l'arrange, les mêmes registres pour décrire les problèmes écologiques que l'on utiliserait pour décrire des problèmes agronomiques. Exemple, les écrits du sociologue Bernard Picon, qui par ailleurs sont très bons, et qui, pensant être très provocant, nous explique qu'en Camargue, on pratique l'élevage des flamants roses, puisqu'on fait de l'ingénierie écologique sur les habitats des flamants roses dans le but de faire se reproduire les flamants roses, on élève des flamants roses. Ou cette autre sortie de Christian Devers, qui dit, au fond, les éleveurs des Alpes, tout ce qu'ils demandent aux écologistes qui sont en faveur du loup, c'est « tenez vos animaux ». On veut bien reconnaître que nous, on a des moutons, vous des loups, mais tenez vos animaux. Et donc, derrière le caractère un peu anodin des échanges d'arguments, ce à quoi on assiste, c'est à une agronomisation ou une zootechnicisation ou une sylviculturisation du monde qui postule une géométrie unique des attachements, une forme unique des élucidations. Si on produit de la biodiversité, c'est le même problème que de produire de l'amidon en faisant du maïs irrigué. C'est simplement d'autres technicités, mais qui rentrent dans le même langage, dans les mêmes compétences, dans les mêmes expertises et qui répondent aux mêmes épreuves. Évidemment, cette agronomisation du monde, elle conduit à des paradoxes qui sont insolubles, puisque les protecteurs de la nature, s'ils acceptent ce coup de force, se trouvent dans un paradoxe insoluble, puisque soit ils protègent en adoptant un langage agronomisé ou zootechnisé, mais dans ce cas-là, est-ce que les objectifs profonds qui essayent de nous mener à protéger les chouettes chevêches, par exemple, est-ce qu'ils ne sont pas perdus si on se met à optimiser la production de chouettes chevêches? C'est ce qui est analysé dans un livre de Jean-Claude Génaud qui s'appelle « Protection contre nature » pour faire ressortir ce paradoxe. Eh bien, cette symétrie imposée, elle nous renvoie à une question tout à fait fondamentale des débats actuels sur la gestion des ressources et de la biodiversité, au nord comme au sud. La question, c'est de savoir si les territoires, les sociétés, la faune, la flore, les milieux vont devoir se plier à des lectures ou à une lecture et à un réaménagement entièrement agronomique. Agronomique, ça veut dire fondamentalement, sur le plan conceptuel, le triptyque, un cadastre, des flux, des productions, des stocks et des échanges. Par exemple, lorsque on veut, pour gérer l'effet de serre et la biodiversité, faire des modèles de land use qui rendent compte des flux de production sur toutes les parties de l'espace dans les mêmes termes, pour ensuite échanger des droits dans les mêmes termes qu'on échange les stocks, et désigner les opérateurs de la gestion de la biodiversité dans les mêmes termes que ceux de la filière vache laitière, alors on est dans un projet d'agronomisation complète du monde, c'est-à-dire un projet qui essaye d'imposer à tout le monde la loi des champs. Nomos, comme dans agronomie, ça veut dire la loi, et ça vient en fait du métrage de l'espace. Et la question est de savoir si le monde va devenir uniquement un espace qui est sous la loi des logiques agricoles et économiques, des flux et des échanges sur un marché, des propriétés cadastrales, des flux et des échanges sur un marché. Xavier Poux insiste sur le fait que la biodiversité est beaucoup le fait du saltus, c'est-à-dire d'un tiers espace autre que le champ. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que l'expansion prise par l'agriculture productive, par la forêt productive, fait que l'espace tiers restant devient tellement contraint qu'il devient moulé, qu'il est obligé de s'adapter aux mêmes logiques que sa contrepartie agricole intensifiée. Et c'est à cette dialectique-là qu'on assiste aujourd'hui, c'est que les territoires et les enjeux qui restent encore aujourd'hui dans une gestion centrés sur l'environnemental, sont soumis à tel rapport de force et à de tels jeux de force qu'il est exigé d'elles, d'une certaine façon, qu'elles se moulent de manière stricte sur un agère qui devient totalisant. Au fond, le débat sur les aires protégées est particulièrement éclairant de ce côté-là, puisque les aires protégées, c'est cet espace tiers qui a été créé pour qu'une autre logique puisse cohabiter avec la logique de la production et de l'échange. Et aujourd'hui, la revendication concrète des filières agrodéveloppementistes, c'est de dire ou bien vous gérez ces aires protégées dans des termes agrodéveloppementistes, c'est-à-dire pour l'homme, ou bien vous nous laissez la gestion de ces aires protégées qui deviendront des espaces de développement durable, rural, comme les autres espaces qui sont, eux aussi, doivent devenir des espaces de développement durable rural. Donc, ou bien vous nous laissez, à la filière agrodéveloppementiste, ces espaces, ou bien vous adoptez vous-même une logique agrodéveloppementiste. C'est la même chose, au bout du compte, si ce rapport de force-là tient jusqu'au bout. En réalité, pour qu'il y ait un sens dans une négociation, pour qu'il y ait un sens dans une situation, il est indispensable qu'il y ait au moins deux séries qui se croisent. Pour qu'il y ait un sens dans une situation agricole, sociale, territoriale et environnementale, il faut qu'il y ait une série environnementale en discussion avec une série agraire. Et quand je parle de série, c'est y compris au niveau du sens, des notions, des concepts, de la manière dont les choses sont présentées. Et donc, la négociation naît de l'existence de séries de sens distinctes et autonomes placées dans une situation concrète d'interdépendance. S'il n'y a pas deux séries de sens autonomes, c'est-à-dire qui se donnent à chacune sa propre loi, alors l'idée même de négociation n'a plus de sens. Autre élément très intéressant que montre Deleuze dans Logique du sens, c'est que pour que le sens se produise vraiment, il faut que le point d'articulation des séries puisse bouger. C'est-à-dire que les termes de discussion, d'accord, de désaccord, d'expression de la série environnementale et agricole, dans notre exemple, soient variables, qu'on puisse parler, qu'on puisse passer de la protection au développement durable, à ceci, à cela. Mais pour que ça se produise, il est absolument indispensable que les séries restent indépendantes l'une de l'autre. Si l'une des séries devient dictée par l'autre, alors la production du sens n'est plus possible. Elle se fiche dans un premier temps, elle disparaît dans une perte de sens très rapidement après. Et donc, la négociation n'est pas compatible avec, et le sens ne sont pas compatibles avec l'hétéronomie des séries. C'est par exemple ce que montre Jean-Baptiste quand il nous montre les relations entre le monde de l'eau et le monde des espaces, tantôt soumis, tantôt opportuniste, tantôt en conflit. On s'aperçoit que l'articulation, elle se gère dans une articulation de série, ou bien elle perd son sens et elle devient soumise. Il y a donc des cercles rhétoriques à couper pour sortir de la rhétorique humaniste anti-environnementale. Alors avec Benamou, on s'est amusé à le faire pour la question de la protection de l'ours. On nous dit toujours que l'opposition à la protection de l'ours est une opposition spontanée des acteurs locaux. Donc sur la base de nos études de terrain, on a pu montrer que c'était une opposition qui a été organisée par des groupes bien identifiés d'acteurs sociaux professionnels alliés à des forces politiques bien particulières. On a pu montrer aussi que les dirigeants de toutes les associations anti-ours des Pyrénées, aucun n'est pyrénéen de souche, alors qu'ils se revendiquent pyrénéens contre des revendicateurs étrangers. Et par ailleurs, les sondages montrent actuellement que la majorité des populations sont favorables dans les Pyrénées à l'introduction d'ours, alors que leurs élus disent qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour l'introduction d'ours dans les Pyrénées. Donc, sur cet exemple, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas lieu de se laisser imposer des ponctuations ou des codages sans examen. Si on nous explique que l'environnement est un surcoût, eh bien, il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui a été pris en compte dans l'établissement du coût et pourquoi on a codé et ponctué le coût comme on l'a fait, de façon à ce que finalement l'environnement apparaisse comme un surcoût. Il faut également refuser la captation des séries, c'est-à-dire toute situation qui nous ramènerait un problème d'environnement à un problème de développement, en présentant la chose comme si elle allait de droit et qu'elle puisse créer une situation où désormais le problème est un problème de développement. Mais, au-delà de ce coupage des cercles, de ce travail petit à petit qui permet de dénouer les écheveaux de procédés rhétoriques qui nous enferment, qui nous excluent d'une certaine manière lorsque nous sommes porteurs de revendications environnementales, il y a ce que je considère maintenant comme le noyau dur de cet humanisme anti-environnemental. Reprenons nos acteurs qui disent que les règlements détruisent l'élevage en montagne en imposant les loups aux populations locales. Ce que vous remarquez, c'est que dans cette formule, il y a un trou noir, et ce trou noir, il porte précisément sur l'humanité de celui qui est demandeur de loups. L'humanité, c'est des personnes et c'est des attachements. Cette ponctuation, je l'avais déjà relevé dans mon livre là sur le Marais Poitevin, j'avais vu qu'on ne parlait jamais des environnementalistes dans le schéma d'aménagement des Marais Poitevin, ni du parc régional, mais je n'en avais pas saisi l'importance. Or, cette ponctuation n'est pas une ponctuation parmi d'autres. C'est le noyau dur générateur qui est caché derrière toutes les autres ponctuations. Pourquoi ? D'abord parce que cette négation est absurde. Par qui est émise la revendication environnementale, la revendication pour des fleurs ou des oiseaux, si ça n'est pas par un être humain ? Qui demande des protections de la nature? Qui dit « je ne veux pas que le tigre disparaisse » Qui dit « je ne veux pas que les forêts disparaissent » Eh bien, dès que l'on dit que ces discours sont contre l'homme ou sont moins humains, ce qu'on dit, c'est que ces gens-là ne sont pas des humains. Et donc, cette ponctuation-là, elle nie l'humanité de l'interlocuteur environnemental. Si je parle, c'est que je suis une personne. Si je suis une personne, on ne peut pas me dire que ce que je dis n'est pas humain. Et donc, le problème clé, c'est que dès lors qu'on me demande un supplément de justification pour exprimer ce qui est mon désir, mon souhait ou ma perception des choses, déjà je suis discriminé comme non humain par rapport à d'autres qui seraient considérés d'emblée comme humains. Nier l'humanité de l'autre, c'est ça qui fonde la violence. Et donc là, on touche à un point clé qui est par exemple développé par Boltanski et Thévenot. Le fait de reconnaître l'humanité de l'autre est la condition fondatrice d'un débat qui essaye de régler les problèmes en raison et sans violence. Et donc, ce qui paraît un petit détail noyé derrière le flot de l'argumentation est en fait l'instauration dès le départ d'une situation de violence pour des dialogues qui après vont être des dialogues déstabilisés dès le départ et qui ne sont pas à long terme tenables et qui se traduisent par toutes sortes de petites ponctuations. D'un côté, c'est la loi, nous, c'est des hommes. De l'autre côté, c'est les forces de l'argent, nous, c'est des hommes, etc. Une fois qu'on a compris ça, si vous voulez bien, on discutera tout à la fin. Donc vous pouvez noter vos remarques et on discutera tout à la fin. Une fois qu'on a constaté que le refus de cette ponctuation-là rend intenable le discours humaniste, contre les acteurs environnementaux et leurs revendications, alors la nouvelle rhétorique est récusée, elle est éclatée, elle ne peut plus fonctionner, elle est cassée comme un pot. Elle n'arrive plus à contenir tous ces arguments, ces situations, etc. Et elle ne peut pas se rétablir. Pourquoi ? Parce que si les acteurs qui ont des revendications environnementales prennent une attitude qui consiste à refuser... Lorsqu'on refuse de reconnaître leur humanité ou leurs attachements écologiques, à tenir un refus de discuter, dès lors, cette rhétorique ne fonctionne plus. C'est-à-dire que l'attitude qui permet de ne plus être victime de cette rhétorique, c'est de dire, voilà, dès lors qu'on nie le caractère humain et autant humain que les autres de mes propres attachements et de ma propre personne, alors la parole de l'autre n'est plus une parole de discussion, c'est simplement un acte stratégique à mon encontre. Et si l'autre veut discuter avec moi pour construire une intercompréhension, ça passe par un préalable, c'est-à-dire qu'il reconnaisse l'humanité complète de ma personne et de mes attachements. Une fois qu'on est intraitable sur cette question, alors cette rhétorique soi-disant humaniste ne peut plus fonctionner comme elle le fait aujourd'hui dans notre champ. Donc, face à cette pression rhétorique, il faut adopter une attitude qui assume ses propres attachements, qui considère que les attachements sont fondationnels des mandats de gestion dans le champ de la gestion environnementale, et que ce n'est pas la loi qui est fondationnelle, ce n'est pas l'économie, ce sont les attachements des personnes. Et tous les attachements des personnes peuvent discuter. Je vous rappelle deux formules de Lacan que j'avais citées dans la séance précédente de Ress. « Ne cède pas sur ton désir » et « L'analyste ne saurait s'autoriser que de lui-même » qui tous les deux renvoient à ça. C'est que les autres soubassements qui sont affichés comme fondateurs réfèrent en réalité, en dernière instance, à des personnes et des attachements, du moins si l'on considère qu'on est dans un débat entre personnes humaines pour régler des problèmes humains. Et donc, ça veut dire aussi, sur un plan cette fois-ci plus défensif, qu'il est légitime de renvoyer l'autre à la responsabilité de ses propres attachements. Quelqu'un ne peut pas me dire « je ne suis pas d'accord pour que tu aies des désirs écologiques » et moi, par ailleurs, je représente une raison sans avoir à m'expliquer sur mes attachements ou qui est au-dessus des attachements. Chacun doit assumer qu'il n'est ni plus ni moins régi par des attachements que les autres. Donc, je me propose de faire 2 minutes de pause pour boire un peu d'eau, changer peut-être la cassette et respirer. Ensuite, je vais vous présenter la deuxième partie. Et ensuite, on aura un temps de discussion approfondie. Donc, vous pouvez pendant ce temps-là réfléchir aux questions que vous aurez envie de poser à la fin de l'exposé.